Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À peine revenus de vacances, pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, mais même ceux qui sont restés chez eux ont, je le sais, pris un peu de loisir tout de même, à peine rentrés de vacances, donc, nous voilà jetés dans les obligations de rentrée qui parfois tournent au véritable casse-tête. Il nous faut régler les factures qui se sont accumulées cet été, il faut faire les comptes pour savoir de combien nous disposons pour financer les multiples activités de cette année, notamment l'essence pour se rendre à Villeroy, pour aller au pèlerinage, à pied, à Meaux. Voilà, il faut prévoir toutes sortes d'achats pour cette nouvelle année, le tout sur fond de crise économique dont on nous rebat sans cesse les oreilles depuis quelques années et dont on nous dit qu'on va bientôt crouler véritablement sous les dettes. Et voilà qu'en écoutant l'évangile de ce matin, vous avez entendu comme moi cette phrase du Seigneur « Ne vous inquiétez de rien ». Alors, j'imagine que furtivement cette idée a traversé votre esprit, Jésus est quand même un petit peu déconnecté du réel. C'est très facile pour lui, qui est entouré de quelques apôtres, de quelques généreux bienfaiteurs, de saintes femmes, comme on n'en fait plus, de sa mère, la Vierge Marie, modèle des maîtresses de maison. C'est très facile pour lui de dire qu'il ne faut s'inquiéter de rien en matière de choses matérielles. Moi, je rame, et puis le contexte de l'époque était quand même beaucoup plus facile. Pas de crédit à rembourser, pas de crise à essuyer. C'est sûr, s'il était à ma place aujourd'hui, Jésus changerait de discours. Avouez que c'est quand même un peu ce qui nous trotte au fond de la tête quand on entend les paroles du Seigneur. Mais bien, chers frères, vous oubliez un détail, la parole de Dieu a cette particularité d'être toujours d'actualité. C'est-à-dire que les paroles de Jésus, ce leitmotiv, parce qu'il le dit trois fois, « Ne vous inquiétez de rien », c'est bien à nous qu'il s'adresse. Nous n'avons à nous inquiéter ni de ce dont nous devons nous vêtir, ni de ce dont nous serons nourris. Le Seigneur ne fait pas d'angélisme, croyez-le bien, il sait ce qu'est la faim, rappelez-vous de ces, et autrement plus que nous, rappelez-vous de ces 40 jours qui ont ouvert sa vie publique, il eut faim à la fin, on comprend, sans manger, sans boire, au bout de 40 jours, il eut faim. Vous voyez, les anges ne viennent pas sans cesse nourrir le Seigneur, ce n'est qu'à la fin du combat avec Satan, après ces 40 jours, qu'enfin, du ciel descend une manne extraordinaire. Il sait donc ce qu'est la faim, il sait ce que veut dire gagner son pain. Il sait ce que veut dire gagner de quoi s'habiller. De 15 ans à 30 ans, en gros, selon les normes de l'époque, il a dû gagner à la sueur de son front de quoi vivre, comme charpentier. Vous voyez que Jésus ne fait pas d'angélisme. Aussi, ses paroles ne sont pas à comprendre comme une interdiction de songer à la nourriture et au bien-être matériel. Pas du tout. Mais elles veulent seulement, ces paroles de Jésus, nous prémunir contre un penchant qui est devenu naturel chez l'homme depuis que l'homme est pécheur, c'est un attachement au bien matériel. Je ne parle pas d'un attachement excessif, je parle d'un attachement au bien matériel, contre quoi Jésus veut nous prévenir. Alors pourquoi, me direz-vous, l'attachement au bien matériel, la poursuite des biens matériels, serait-elle mauvaise? Est-ce que ce n'est pas Dieu lui-même qui a donné aux hommes, on le voit au premier chapitre du livre de la Genèse, il donne à l'homme et à la femme l'ordre de cultiver la terre, d'exploiter cette terre. Cultivez la terre, soumettez-la. Vous pouvez manger de tous les fruits de l'arbre du jardin. Ça vient de Dieu, cette création. Et Dieu veut que nous usions de cette création, que donc nous nous attachions, que nous consommions ces biens qui sont autour de nous. Alors, pourquoi s'en priver? En quoi l'attachement au bien serait-il quelque chose de mortifère? Alors, certes, mes frères, je ne le nie pas, les biens de la terre sont bons. Bien sûr, je ne suis pas manichéen, loin de moi, le mépris de la matière. Pour ceux qui me connaissent, et vous me connaissez quasiment tous, vous savez que j'aime la bonne chair. Eh bien voilà. Mais le Seigneur connaît parfaitement sa créature. Il sait que l'être humain, parce qu'il l'a fait ainsi, est un mélange subtil entre un esprit et un corps. C'est-à-dire un animal rationnel. Et que si cet animal rationnel commence à s'intéresser de trop près au bien de la terre, alors sa partie animale nécessairement l'emportera sur sa partie spirituelle, c'est-à-dire sur son âme. Le Seigneur sait que l'être humain devient en quelque sorte, parce qu'il est une éponge cet être humain, il devient en quelque sorte conforme aux réalités qu'il fréquente. Plus il s'attache aux questions de nourriture, de boissons, de biens matériels, plus il s'alourdit. Et alors, plus il est incapable d'élever les yeux vers l'essentiel, vers les biens spirituels, je veux dire vers les biens du ciel. D'où les autres paroles de Jésus qu'il faut accueillir au pied de la lettre. Vous voyez, certaines paroles de Jésus sont à interpréter, d'autres sont à prendre au plan le plus fondamentaliste. Bon, le plus fondamental qui soit, disons, pour ne heurter les oreilles de personne. Que dit-il selon Jésus ? Malheur à vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheur à vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Il ne dit pas malheur à vous qui détroussez les autres, malheur à vous qui faites toutes sortes de fausses manipulations pour abuser de la confiance des autres. Non, il dit juste les riches et ceux qui sont repus. Ne sommes-nous pas nous-mêmes riches, d'une certaine manière, et repus ? Malheur à nous, dit le Seigneur. Notre cœur, mes frères, est trop petit pour que puisse coexister en lui un attachement au bien de la terre et un attachement au bien spirituel. Jésus le dit de manière très claire, nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il haïra l'un, aimera l'autre, ou bien il aimera l'un, haïra l'autre. On ne peut servir, dit Jésus, Dieu et Mammon, non pas l'argent. Vous avez certaines traductions qui sont, à mon avis, totalement erronées, parce que trop restrictives, qui parlent de l'argent. Non, non, Jésus ne parle pas que de l'argent, il parle de Mammon. Je vais y revenir. Le Seigneur ne nous laisse pas le choix, il ne nous laisse pas la possibilité d'une alternative, d'un compromis. Il sait que dès que nous songeons tant soit peu au bien de la terre, notre relation à Dieu est compromise. Je ne dis pas qu'elle est totalement rompue, je dis qu'elle est compromise. Alors vous allez me dire, oui, mais cette mise en garde ne vaut que pour les païens. Parce que les païens, ils n'ont jamais rencontré le vrai Dieu, et ils se tournent naturellement vers ce qui à leurs yeux est le plus éminent. C'est-à-dire les réalités de ce monde. Nous savons que telles ne sont pas les choses les plus éminentes, qu'il y a une vie après la mort, que le plus important c'est au ciel que ça se trouve. Alors, nous n'allons pas tomber dans le culte de cette divinité factice qui est Mammon. Vous protesterez parce que vous direz que vous tentez, tant bien que mal, d'user des biens de ce monde comme n'en usant pas, selon la parole de saint Paul. Vous êtes dans ce monde sans être du monde. Vous prétendrez que vous avez du bien. Il ne faut pas se le cacher quand même. Vous faites partie de cette portion d'humanité qui est assez bien lotie, même si vous vous plaignez. Et vous direz que bien, ces choses, vous savez quand même en user sans excès. Que jamais ou quand jamais votre cœur ne sera partagé entre Dieu et Mammon. Parce que vous savez des deux qui est votre créateur et votre sauveur. Alors, très simplement, qu'il me soit permis de rappeler quelques figures de l'histoire sainte qui ont très bien commencé, qui ont très mal tourné, qui connaissaient parfaitement le vrai Dieu. Voyez Salomon, le plus humble, le plus simple des hommes de son temps, son cœur était tout à Dieu, c'est vrai. Les premières lignes quant à la vie de Salomon sont magnifiques. Dieu en est ému, j'allais dire aux larmes, mais il accepte de combler Salomon de bien, parce que la seule chose que Salomon lui réclame, c'est la sagesse. Quelle maturité pour ce jeune homme encore, voyez. Mais sont venues petit à petit les richesses, les concubines, un train de vie somptueux. Alors, son cœur s'est alourdi. Et finalement, qu'a-t-il fait ? Bien, il a renié Dieu. Il était obnubilé par les biens de ce monde. Il n'a pas pu mettre les priorités là où il fallait et être fidèle, comme au début de son règne, à ce Dieu qu'il avait comblé de biens. Judas Iscariote, autre figure importante, l'un des 12, il a d'abord été fasciné par Jésus, croyez-le. Il a tout lâché pour le suivre. Il a accepté de se mettre totalement à la remorque du maître. Quelle générosité ! Vous me direz que s'il s'est détourné de son maître, c'est seulement pour des questions politiques. Peut-être était-il zélote, déçu que Jésus ne souleva pas les foules contre le pouvoir en place. Vous me direz peut-être également qu'il s'est rebellé contre Jésus pour des questions d'ordre spirituel. À force de le fréquenter tous les jours, il trouvait finalement que ce rabbi ne correspondait pas vraiment à l'idée qu'il se faisait du Fils de Dieu. Mais j'attire votre regard sur un détail. L'Écriture fait état d'un autre facteur, et pas des moindres, un attrait immodéré pour les richesses. On nous dit qu'il était avare, souvenez-vous. Quel poste occupait-il dans le collège des apôtres ? Tiens, il était économe. Je ne dis pas que tous les économes nécessairement vont trahir leur maître. Il se lamente lorsque Sainte Marie-Madeleine fait des onctions avec un nard de grand prix. Il prétend que c'est parce qu'il voudrait distribuer l'argent correspondant en obol aux pauvres, mais l'Écriture nous détrompe. Non, c'est parce qu'il voulait se le mettre dans les poches. Il vend ensuite son Seigneur pour 30 pièces d'argent. C'est pas rien, 30 pièces d'argent. Voyez combien l'argent, l'appât du gain terrestre, a tourné le cœur de Judas Iscariote, qui était pourtant un bonhomme. Le jeune homme riche, autre figure, quelle noblesse, quelle grandeur d'âme, il peut, sans être détrompé par Jésus, prétendre qu'il respecte intégralement les commandements. Pardon, quelle noblesse! Et cependant, quand Jésus lui dit que la condition pour être parfait consiste à tout abandonner des biens terrestres pour suivre Jésus, on nous dit qu'il s'en alla tout triste car il avait grand bien. Voyez que les âmes les plus nobles se sont laissées avoir. Ananie et Saphir, et j'en finirai là. Ananie et Saphir, aux Actes des Apôtres, chapitre 5e, font partie de la communauté primitive. Ils sont un couple qui a accepté, persécuté, qu'était l'Église par la synagogue, de devenir chrétien. Voyez là encore des âmes généreuses. Ils devaient être amoureux du Christ, touchés par la grâce, par une foi tout d'abord radicale. Mais quand il s'est agi de mettre en commun les biens, ils ont accepté de vendre un champ, ils ont capté une partie seulement. On ne nous dit même pas qu'ils avaient tout volé ou qu'ils ont détalé pour fuir cette nécessité de vendre le bien. Non, ils ont vendu le bien, ils n'en ont gardé qu'une partie. Qu'est-il advenu ? Ils sont morts, exécutés par le fléau divin. Vous voyez, mes frères, que toutes ces grandes figures de l'Écriture qui avaient foi en un seul vrai Dieu, qui n'étaient donc pas des païens sans autre horizon que les choses qui les entouraient, ces personnes qui avaient foi dans le seul vrai Dieu en sont venues pourtant à adorer Mammon. Alors que désigne Mammon ? Est-ce que Mammon est une de ces multiples idoles, divinités pacotilles, derrière lesquelles se cache comme d'ordinaire Satan ? Est-ce que c'est un dieu quelconque entre d'autres, Saturne, Vénus, que sais-je ? Non. En hébreu, Mammon veut dire les possessions. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que dénonce Jésus, ce n'est pas une divinité devant la statue de laquelle on s'incline et on brûle quelques grains d'encens. Ce n'est pas cela dont Jésus veut nous garder. C'est beaucoup plus subtil. Ce mammon, ce sont en fait mes biens dans lesquels je place ma confiance. Voilà ce qui fait obstacle à ma relation à Dieu. Voyez, le tort de Salomon, de Judas, du jeune homme riche, d'Ananie et de Saphir, n'était pas de posséder des biens. Ces biens viennent de Dieu. Ces biens sont des bénédictions. Mais leur tort a été de mettre leur confiance en ses biens, au lieu de ne se fier qu'en Dieu seul et dans sa providence. Une telle conduite, mes frères, ça porte un nom, ça s'appelle un blasphème. C'est-à-dire qu'elle laisse cette conduite, l'homme, croire qu'il peut compter sur ses propres forces au lieu de tout recevoir de Dieu. C'est l'éternelle histoire du péché originel qui recommence et qui recommence à chaque génération. Compter dans ses petites forces plutôt que compter en Dieu. Or, qu'advient-il immanquablement lorsque l'homme compte sur ses biens, sur ses petits projets, élargissons encore, sur toutes sortes de placements, pas seulement financiers, il devient inquiet. Regardez le monde qui nous entoure. Le monde qui nous entoure est des mieux lotis. Je parle du petit Occident, façon début 21e siècle, dans lequel nous vivons. Nous sommes pourvus de biens, nous sommes gavés, il faut bien le dire, et même dans le quart monde, certains ont quand même plus de biens que dans le tiers monde. Eh bien, les mieux lotis eux-mêmes sont tiraillés par une perpétuelle inquiétude. On croirait voir Harpagon, vous savez, ce héros de l'avare de Molière, mais que Molière était visionnaire. Voyez, regardez-vous vous-même, parce qu'il est toujours assez facile de rire des autres, mais regardez-vous vous-même, regardons-nous nous-mêmes, je m'inclus dans cet ensemble, avec lucidité. En bons occidentaux que nous sommes, nous appartenons à la seigneur parse de l'humanité. Seigneur parse, entendons-nous, au plan financier, ce qui est déjà pas si mal, ou au plan de nos possessions, au plan du niveau de vie, plus globalement. Que nous manque-t-il ? et pourtant nous accumulons des biens. Pourtant, nous vivons au-dessus de nos moyens. Et même les plus modestes d'entre vous vivent au-dessus de leurs moyens. Parce que nous sommes dans un système qui, si nous ne luttons pas, nous fait entrer dans cette économie de l'emprunt, dans cette économie du prêt. Et pourtant, nous nous plaignons, bien que nous ayons tous les biens qu'il faille. Vous voyez, quelque chose semble manquer dans notre garde-manger, aussitôt, nous ne sommes pas bien. Il manque de la moutarde, il manque du beurre, ah, rien ne va plus. Vite, vite, je vais chez l'épicier. Il me manque, ah, mon manteau est un peu usé, plutôt que de le réparer, je vais en acheter un autre. Vous voyez, pour ne pas parler, pour ne rien dire de la mode, qui est alors là, la cerise sur le gâteau. Voilà, des enfants gâtés que nous sommes. Voilà, vous le savez, vous le voyez. Il n'y a pas besoin d'être un voleur, il n'y a pas besoin d'être un rapace athée pour connaître cet attachement déréglé au bien de ce monde. Regardons-nous en face, nous sommes attachés à Mammon. Alors, que veut faire Jésus dans cet évangile? Il veut provoquer un sursaut. Il veut provoquer un sursaut pour que notre confiance passe décidément, une bonne fois pour toutes, des réalités de ce monde matériel à Dieu seul. Parce que, soyons-en bien certains, nous n'emporterons rien au ciel. Lorsque nous serons allongés, tout froids, tout livides, les vêtements ne nous serviront de rien. Les biens matériels en tout genre, les bijoux peut-être qui orneront vos mains, vos oreilles, que sais-je, ne serviront plus de rien. Voyez ? Nous serons totalement allégés. La seule chose qui comptera, c'est la confiance qu'au cours de notre vie, nous aurons mis en Dieu, et non pas dans ses biens matériels. Mes frères, ce que je vais vous dire va vous sembler un peu insensé, un peu enflammé, et c'est ainsi, j'ose croire que c'est du Saint-Esprit. Voilà, il faut que nous profitions de cette crise économique. Eh oui, il faut profiter de cette crise économique. C'est un slogan qui n'est pas très vendeur. Je pense même qu'il est un peu imprudent. Il l'est même carrément au sens humain. Mais je crois qu'il faut, de toute façon, faire contre mauvaise fortune bon cœur. Nous n'avons pas le choix. Cette crise est là. Et elle nous affecte tous, d'une manière ou d'une autre. Alors, de deux choses l'une, soit nous continuons à nous morfondre, soit nous apprenons le détachement en utilisant les dégâts de cette crise économique. Dieu permet, sans doute, je crois, Dieu permet, c'est certain qu'il le permette, mais parfois il permet, avec un degré plus ou moins important de volonté. Là, il permet, peut-être avec un peu de volonté, peut-être avec un petit sourire, il permet que cette mauvaise passe, nous y soyons exposés. De sorte que nous soyons contraints de nous en remettre à sa providence. Et plus dans ces biens de consommation ou dans toute chose de bien matériel dont nous voyons la vacuité, ces intérêts dont nous voyons les limites aujourd'hui. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une sorte de désert? Une sorte de désert dans lequel il nous faut entrer résolument. Voyez, pourquoi Moïse, pourquoi Abraham avant lui était-il si profondément attaché à Dieu? Mais parce que c'était des hommes du désert. Dieu d'ailleurs leur a demandé de passer longtemps à travers le désert, comme pour éprouver une sorte de purification, de détachement des biens matériels. Quand on voyage en caravane, on voyage léger. Et du coup, il leur était sans doute plus facile de s'attacher à Dieu seul. Alors je ne vous demande pas de quitter votre maison, d'acheter une caravane ou un mobilhome et d'aller de place en place. Nous ne sommes pas tous appelés à être des Romanichels ou des gitans. Néanmoins, je crois que la logique doit s'inscrire dans notre vie. Vous voyez, de résolument souhaiter passer par le désert. Vous savez que le désert, c'est un don de Dieu. C'est pas seulement l'absence de végétaux, l'absence d'animaux. C'est un don de Dieu selon l'Écriture. Vous voyez la place capitale du désert dans l'Écriture. Jésus y conduit ses bien-aimés. Je la conduirai au désert et alors je parlerai à son cœur. Vous voyez que lorsque nous sommes au désert, débarrassés de tous ces biens matériels, débarrassés de Mammon, alors nous sommes dans un cœur à cœur avec Dieu qui peut nous conduire comme bon lui semble. Vers des chemins, peut-être par des chemins que nous n'aurions jamais espérés ou que nous n'aurions jamais soupçonnés, mais toujours vers une patrie à laquelle au fond de nous-mêmes nous aspirons. Une patrie où il n'y ait finalement que les choses importantes, les choses qui comptent qui sont là. Vous voyez, Dieu soit donc béni de permettre cette crise. Voyez, il faut prier le Saint-Esprit pour qu'il nous aide, pour qu'il nous, parce qu'il faut redescendre à la fin de cette homélie quand même vers des réalités très concrètes. Je ne veux pas parler de la quête, je veux parler des choix opportuns que nous devons poser au moment de cette rentrée. Voyez, très concrètement, quels moyens emploierai-je? Pas allons-nous employer en couple, en famille, ou je ne sais. Non, emploierai-je moi pour vraiment me détacher de certains biens qui n'importent pas du tout, pour m'attacher à Dieu. Combien de temps est-ce que je passe à faire les comptes ou à prévoir le mois qui arrive, ou à me lamenter au téléphone, et combien de temps je passe pour écouter Dieu qui parle dans la brise légère, c'est-à-dire dans sa parole, dans la Bible, dans l'oraison, et en fréquentant les sacrements. Vous voyez que tout ça est très concret. Voilà. Je prie donc le Saint-Esprit pour qu'il vous aide, pour qu'il nous aide à savoir nous détacher, entrer résolument dans ce désert qui est la condition sine qua non pour que Mammon, enfin, cesse de nous chatouiller. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci.